L'année dernière, à peu près à cette période, c'était un petit peu plus tard dans l'année scolaire, j'avais proposé, je ne sais pas si vous vous souvenez, une mini-série de prédications autour d'un des grands fondamentaux de la vie chrétienne, la prière. Et nous avions eu trois cultes autour de plusieurs questions qu'on peut se poser à propos de la prière. Je me suis dit que cette année, il pourrait être intéressant d'aborder un autre incontournable de la piété chrétienne, mais pas en trois prédications, ça sera une aujourd'hui, la lecture de la Bible. C'est une question centrale, puisque notre foi vient de la parole de Dieu et se nourrit de la parole de Dieu. Et je pars du principe que la Bible n'est pas tout à fait un livre comme les autres. Je crois que Dieu a veillé à la rédaction et la compilation de la Bible pour qu'elle soit reçue par les chrétiens comme sa parole. L'Écriture seule est la référence ultime pour le croyant. Elle fait autorité pour la foi et la vie chrétienne. C'est une petite phrase qu'on trouve des fois dans les confessions de foi, que la Bible, parole de Dieu, fait autorité pour la foi et la vie chrétienne. Pour dire les choses simplement, la Bible est le moyen privilégié par lequel Dieu veut me parler aujourd'hui. Mais alors, comment entendre Dieu nous parler quand nous lisons la Bible ? Pour répondre à cette question, je vous propose de lire un texte. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles et puis sinon, vous écoutez simplement la lecture, il n'est pas très long. Probablement le texte le plus souvent cité pour évoquer la Bible comme parole de Dieu. Car si la Bible est parole de Dieu, ça veut bien dire que Dieu parle par elle. C'est pour cela qu'on appelle la Bible parole de Dieu. Dieu parle par sa parole. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Et c'est Paul qui s'adresse à Timothée en lui disant « Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. » Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparé et équipé pour bien agir à tous égards. Et je vous en ai fait la lecture donc, de ces quatre versets dans la nouvelle Bible en français courant. Peut-être que du coup, il y a quelques mots qui ne sont pas écrits de la même façon exactement dans votre traduction, celle que vous avez sous les yeux. J'ai un peu l'impression, parfois, qu'on s'arrête au seul verset 16 de ce passage, « Toute écriture est inspirée de Dieu » et qu'on commente souvent cette partie du verset. Et on ne va pas plus loin. Comme s'il suffisait, puisque toute la Bible est inspirée, de citer un verset biblique, quelquefois sorti même de son contexte, pour exprimer la volonté de Dieu. Il y a certaines expressions ou formules toutes faites qu'on utilise souvent ou peut-être moins souvent, mais quand même, dans nos milieux évangéliques, qui me semblent problématiques. Par exemple, les phrases qui commencent par « la Bible dit » ou alors « la Bible est claire » à ce sujet. Certes, Dieu parle à travers la Bible, mais parfois c'est nous qui lui faisons dire aussi quelque chose, et ça peut être plus ou moins discutable. En général, d'ailleurs, quand des personnes commencent leur phrase par « la Bible dit », c'est pour ensuite annoncer une vérité absolue. On cite un verset, et ce verset doit être considéré comme la vérité dernière sur tel ou tel sujet, la réponse définitive à telle ou telle question. Ça a tendance à couper court à toute réflexion et toute possibilité de dialogue. Alors, ce n'est pas que la Bible n'a pas d'autorité, je ne veux pas vous dire cela, évidemment. Mais attention à ne pas faire dire à la Bible ce que nous souhaiterions qu'elle dise. si la Bible dit et que la Bible est la parole de Dieu, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas la prendre dans son contexte. Et quand on ouvre la Bible, alors on ouvre, quel que soit le passage de la Bible, les écrits que nous avons ont à peu près 2000 ans, et puis pour l'Ancien Testament, ça peut être 3000 ans, et même un peu plus. Donc de toute façon, on doit se plonger dans le passé, dans un passé qu'on n'a pas connu en plus, qui est très lointain, pour ensuite comprendre ce que Dieu a voulu nous communiquer par ces mots qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Citer un verset biblique, ça n'est pas forcément être fidèle à l'enseignement biblique dans sa totalité. Connaître des versets bibliques est une bonne chose, mais ce qui est encore mieux, c'est de connaître la Bible dans son ensemble, avec tous les équilibres qu'elle contient. Et justement, dans ces versets, quelques versets que je vous ai lus, il y a une petite expression qui nous parle de la sagesse et qui me semble important. Les Écritures peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. On va commencer la semaine qui vient des études bibliques le jeudi soir sur le livre des Proverbes. Et vous savez que c'est la sagesse qui est souvent mentionnée comme étant une qualité aussi de Dieu lui-même, une sagesse aussi que Dieu nous communique dans sa parole. Et là, ce verset de 2 Timothée nous le dit clairement. La sagesse, les Écritures peuvent nous donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Quelle est donc cette sagesse des Écritures? Il s'agit d'une connaissance, une façon de comprendre les choses, une grille de lecture du monde. J'avais un professeur de missiologie à la faculté de théologie qui nous parlait de l'enseignement biblique comme une paire de lunettes qu'on met sur devant nos yeux pour voir le monde. Et il nous disait régulièrement d'ailleurs, avez-vous mis vos lunettes? Il faisait ce petit geste, on rigolait toujours entre étudiants. Connaître la Bible, c'est acquérir une sagesse qui nous permet de comprendre le monde, la vie, nous-mêmes, mais du point de vue de Dieu, d'un point de vue qui n'est pas nécessairement le nôtre, qui est un point de vue, on prend de la hauteur, c'est le point de vue de Dieu. C'est cela la sagesse qui nourrit notre foi en Jésus-Christ, parce que le projet de Dieu conduit à Jésus-Christ. Faut-il le rappeler, le salut ne vient pas de la foi dans la Bible, mais de la foi en Jésus-Christ, que la Bible révèle et à laquelle la Bible nous conduit. C'est dans cette perspective que la Bible est utile, un mot aussi que Paul utilise. Être utile, c'est servir à quelque chose. La Bible est comme un outil, et pour qu'un outil se révèle vraiment utile, il s'agit donc de l'utiliser de la bonne façon. On ne va pas prendre un tournevis pour enfoncer un clou, même si ça pourrait un peu marcher, et pas un marteau pour visser une vis. Là, ça ne risque pas de marcher du tout. Il arrive qu'on utilise la Bible de la mauvaise façon, en lui faisant dire, je le disais déjà il y a quelques minutes, ce qui nous arrange. Ou peut-être en mettant des passages de côté, parce que ces passages ne nous plaisent pas, tout simplement. Ils heurtent quelque chose à l'intérieur de nous, et donc on va sélectionner d'autres choses qui nous font plus plaisir. Mais ce que notre texte dit, c'est que toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, parce qu'il y a peut-être des erreurs à réfuter, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. La Bible est donc utile, utile pour la vie du disciple de Jésus, utile pour définir le contenu de notre foi et la manière de mettre en pratique cette foi. La Bible fait autorité en matière de foi et de vie chrétienne. Lire la Bible dans cette optique, c'est déjà une manière d'entendre Dieu nous parler. Mais peut-être vous posez la question, mais comment entendre Dieu me parler quand j'ouvre ma Bible ? Eh bien, la sagesse que la Bible nous donne nous permet d'entendre Dieu nous parler dans notre quotidien. Elle aiguise, cette parole de Dieu, aiguise notre ouïe spirituelle, notre capacité à entendre Dieu, que ce soit pendant le temps de notre méditation ou pendant notre journée ensuite. Dieu peut nous parler alors que nous sommes en train de lire la Bible, et c'est même le moyen privilégié que Dieu a pour nous parler. Mais si nous n'entendons pas toujours Dieu nous parler quand nous lisons la Bible, c'est normal. Ce n'est pas grave. Il y a aussi un travail de l'esprit qui se fait en tâche de fond, j'ai envie de dire. Et on n'entend pas forcément une parole très claire et distincte à chaque fois. C'est en approfondissant notre connaissance de la Bible que nous approfondirons cette sagesse qui va aussi nous aider à discerner la voix de Dieu dans notre vie et notre quotidien. Et puis il y a aussi notre attitude au moment de lire la Bible. Si la Bible n'est pas un livre comme les autres, nous ne devons pas le lire comme les autres livres. Il s'agit d'ouvrir notre cœur lorsque nous ouvrons la Bible et de prendre le temps nécessaire. Ce n'est pas en lisant un ou deux versets le matin, en buvant notre tasse de café, que nous profiterons au maximum de ce que la Bible peut nous apporter, et ce n'est pas en faisant cela que nous entendrons Dieu nous parler le mieux possible. Il faut mettre le plus de chance de notre côté, car une bonne lecture de la Bible demande un temps de qualité. On n'arrive pas forcément à prendre ce temps de qualité tous les jours, mais ça vaut la peine de saisir les occasions qui se présentent ou de se ménager des espaces dans son agenda. Et quand je ne comprends pas, parce qu'il arrive aussi d'ouvrir sa Bible et puis de tomber tout d'un coup sur un passage où même la compréhension du passage n'est pas chose facile, eh bien, c'est vrai, la compréhension de la Bible n'est pas toujours facile. D'ailleurs, il y a une expression de la langue française qui est plutôt mal trouvée. Vous l'avez peut-être déjà entendue, j'ai une fois entendu, ça m'a presque vraiment fait rire, parce que c'est l'expression d'une simplicité biblique. Derrière les apparences, peut-être, la Bible est beaucoup plus complexe que ce qu'elle en a l'air. La Bible elle-même, d'ailleurs, dit qu'elle est compliquée. Je vais vous lire juste un petit extrait de 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. « Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que Paul, c'est Pierre qui parle, ainsi que Paul, notre très cher frère, vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. » Des gens ignorants et instables en tordent le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils vont ainsi à leur propre perte. Donc Pierre lui-même dit qu'il y a des passages des lettres de Paul qui sont difficiles à comprendre, avec un risque, le risque d'en tordre le sens, et un risque qui, d'ailleurs, s'étend aux autres parties de l'Écriture, puisque Pierre nous dit qu'il y a des gens, du coup, qui tordent le sens des Écritures, pas que des lettres de Paul, mais aussi des autres parties. Ne soyons donc pas étonnés si, parfois, nous trouvons, nous aussi, des textes bibliques difficiles à comprendre. C'était le cas de l'apôtre Pierre lorsqu'il lisait lui-même Paul. La Bible contient une certaine complexité qu'il ne faut pas nier. Et comme je le disais, rappelons-nous aussi que nous lisons un texte qui a été écrit dans une autre culture que la nôtre, il y a 2000 ans pour les écrits les plus récents et 3300 ans pour les écrits les plus anciens. Certains font remonter même encore un peu avant. Alors attention, je ne suis pas en train de dire non plus que dans la Bible, rien n'est clair. Je pense que le message central de la Bible, l'amour de Dieu, son projet de salut, son accomplissement dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, tout cela est plutôt clair et compréhensible. Le message biblique, dans sa globalité, est clair. Par contre, dans le détail, la Bible est parfois compliquée. Méfions-nous alors des évidences simplistes et des affirmations à l'emporte-pièce du style, comme je l'ai dit avant, la Bible dit, la Bible est claire. Ça correspond, c'est des demi-vérités, mais souvent on fait de ces demi-vérités des vrais mensonges. Comprendre la Bible. Lire la Bible, c'est bien, la comprendre, c'est mieux, et ce n'est pas toujours si évident que cela. Si d'ailleurs je reprends ce passage de Pierre et que je l'élargis un petit peu, juste après avoir dit que ceux qui tordent le sens des Écritures vont à leur perte, Pierre ajoute, « Eh bien, mes très chers amis, vous êtes maintenant avertis, prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans repère, et n'allez pas tomber de la position stable qui est la vôtre, mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. » Quel est le problème soulevé dans ce texte ? Eh bien, c'est qu'il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Ça existait déjà au temps de l'apôtre Pierre, au temps des premiers disciples, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis, comme il y a de plus en plus de personnes qui lisent la Bible, eh bien, il y a de plus en plus de personnes aussi qui en tordent le sens. Et avec les réseaux sociaux, etc., toutes sortes de choses peuvent être aujourd'hui affirmées dans un endroit du monde et entendues par tout le reste du monde via les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, etc. L'apôtre Pierre, déjà à son époque, qui n'était pas une époque plongée dans les médias comme la nôtre aujourd'hui, disait qu'il y en avait qui tordaient le sens des Écritures et qui propageaient cela. D'autres se laissaient entraîner par cet enseignement problématique, et l'enjeu est important pour ceux qui tordent le sens des Écritures et pour ceux qui se laissent égarer. Les premiers vont à leur perte et les seconds peuvent tomber de leur position stable, c'est-à-dire être déstabilisés ou perturbés dans leur foi. Ceux qui tordent le sens des Écritures sont qualifiés d'ignorants et instables dans ce passage. Il y a plusieurs traductions, la NBS traduit par « des gens mal informés », la TOB « des gens sans formation ». Ce ne sont pas toujours des personnes mal intentionnées, ça peut être des croyants qui se trompent honnêtement, mais qui se trompent quand même. Avec plus de connaissances, une meilleure formation, ils ne diraient pas la même chose. Alors voici deux conseils pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui tordent le sens de l'Écriture ou dans le piège d'en tordre soi-même le sens, parce que c'est un piège qui nous guette aussi. Une posture d'humilité, tout d'abord, autant dans la lecture et l'interprétation de la Bible que dans sa façon de transmettre et de partager cette interprétation, il est essentiel d'adopter une posture d'humilité. La première raison est peut-être parce que c'est la parole de Dieu, comme nous l'avons affirmé déjà plusieurs fois ce matin. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Il s'agit d'être conscient que nous avons tous une connaissance partielle des Écritures, quel que soit le nombre de fois où nous avons lu toute la Bible ou le nombre d'années d'études de théologie que nous avons faites. Il ne fait aucun doute que nous avons tous des lacunes et même des compréhensions erronées de la Bible. D'ailleurs, à force de la relire, eh bien, on s'aperçoit qu'on avait pensé faux dans le passé. Et si ça vous est jamais arrivé, c'est pas normal, parce que c'est normal de penser faux. Et la Bible est là aussi pour corriger, pour nous instruire, et ça se fait au fur et à mesure. De plus, personne n'a d'autorité absolue dans l'interprétation de la Bible, y compris quand je vous dis ce matin qu'il y en a qui tordent le sens des Écritures, eh bien, ça peut aussi nous arriver à chacun. Et si un jour, même du haut de la chair, ici dans cette église, vous entendez quelque chose, c'est la parole de Dieu qui nous dit qu'il faut examiner ce qui est bon, examiner toute chose, pardon, et retenir ce qui est bon. On peut toujours discuter ce qui est dit par l'être humain qui commente la parole de Dieu. Nous avons besoin des autres pour bien comprendre la Bible. Il y a un certain danger dans la lecture solitaire, celui de s'enfermer dans sa propre compréhension, parfois contestable. La lecture personnelle est importante, mais la lecture solitaire est risquée. S'enrichir de la lecture des autres est précieux. Et pas que les autres qui pensent comme nous, justement, pour nous conforter uniquement dans nos idées. Il y a ce phénomène, d'ailleurs, aujourd'hui, accentué par les réseaux sociaux, que j'ai déjà mentionné, de s'entourer d'une communauté de personnes qui pensent exactement comme nous. Parce que c'est très facile, on peut dire « j'aime », etc., « je rejoins tel avis », et donc, du coup, on est même sur son téléphone au quotidien bombardé d'informations, mais qui ne font que nous conforter, puisque c'est nous qui les avions choisis. Et il y a ce risque, du coup, beaucoup plus fort peut-être aujourd'hui, amplifié en tout cas par les réseaux sociaux, de finalement rentrer dans une seule façon de voir les choses et de n'accepter de ne côtoyer que des gens qui pensent dans le même sens que nous. S'enrichir de la lecture des autres est précieux, et pas seulement les autres qui pensent exactement comme nous. Posture d'humilité. Et ensuite, posture de sérieux dans l'interprétation. Il y a une fausse idée qui circule des fois chez les chrétiens évangéliques, c'est que si la Bible est parole de Dieu, alors on ne doit pas l'interpréter. Peut-être vous avez déjà entendu cette idée-là. C'est une fausse idée, parce qu'il est tout simplement impossible de ne pas interpréter un texte. Vous avez peut-être déjà entendu dire des personnes affirmer « moi je n'interprète pas la Bible, je la cite ». Ok, mais pourquoi cites-tu alors ce verset plutôt qu'un autre dans notre contexte, dans cette situation précise? C'est une option d'interprétation. Et puis, quel est le contexte de ce verset? Comment se situe-t-il dans le livre biblique auquel il appartient? Et puis, par rapport à l'ensemble de l'enseignement biblique, est-ce que la traduction est correcte? Quelle est la signification des mots utilisés, etc., etc. On pourrait poser plein de questions. On est obligé d'interpréter. On ne peut pas comprendre un texte sans l'interpréter. Comprendre un texte biblique de façon littérale, c'est une option d'interprétation. Même si on dit je lis littéralement, ben on interprète littéralement, c'est une option d'interprétation qui peut se justifier dans certains cas, mais pas toujours. Avoir une lecture littérale de la Bible, avoir toujours une lecture littérale de la Bible, c'est en tordre le sens dans bien des cas. Tout simplement dans les cas où l'auteur ne voulait lui-même pas être pris au pied de la lettre, car il utilise des images, des hyperboles et quantité d'autres effets de style. Car la Bible est aussi, la parole de Dieu est aussi exprimée avec des formes littéraires très riches, et artistique. Et quand je ne comprends toujours pas, si malgré ma posture intérieure d'humilité et mon sérieux dans cette lecture de la Bible, dans la façon dont je veux la lire et l'interpréter, si malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à comprendre un passage biblique, que dois-je faire dans ce cas-là? Tout d'abord, si nous persévérons dans la lecture de la Bible, certains passages restés obscurs finissent par s'éclaircir au moins un peu. Avec notre foi qui s'affermit, notre expérience chrétienne qui augmente, notre connaissance biblique qui s'accroît, notre capacité à comprendre, même les passages les plus obscurs, augmente et progresse également. Notre vision d'ensemble nous aide à comprendre certains textes particuliers. Rappelons-nous aussi que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas, même si c'était le sujet de la prédication aujourd'hui, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de tout comprendre. Lorsque nous rencontrerons notre Créateur, notre Dieu, eh bien, avant d'entrer dans sa présence pour l'éternité, il ne nous fera pas passer de test de théologie. Pas de QCM non plus sur les références bibliques, on n'aura pas à réciter des versets bibliques par terre, ce n'est pas ça qui est nécessaire pour être dans la communion de Dieu. Le but de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu. De façon aussi expérimentale, bien sûr, la parole de Dieu est là pour nous le révéler. De connaître Dieu dans son amour, dans sa grâce, et honorer Dieu par notre vie. Comme le dit Pierre dans le texte que nous avons lu, de continuer à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous y aide, dans ce sens-là, elle est un outil utile, évidemment. Sa lecture, sa méditation et sa compréhension sont des facteurs de croissance spirituelle. Mais pour connaître Dieu, l'aimer et le servir, je n'ai pas besoin de tout comprendre. La foi parfaite n'est pas celle qui a tout compris, c'est celle qui sait faire confiance à Dieu, en toutes circonstances, y compris quand il y a des doutes et des incompréhensions. Car il est normal, aussi dans notre vie chrétienne, de passer par des moments de doute. C'est l'inverse qui serait anormal. Ça voudrait dire que on n'a jamais de doute. Ce serait presque une forme d'orgueil de ne jamais en avoir. On peut avoir des doutes, des incompréhensions. Puis il y a un verset qui moi, me frappe toujours. C'est Jésus, au moment de les envoyer en mission, à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai enseigné. » Eh bien, juste avant cela, il y a un petit verset qui dit « Certains eurent des doutes ». Et Jésus ensuite les envoie tout de même en mission. Même avec nos doutes, nous sommes dans la mission de Dieu. Et c'est Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. » Nos doutes dans notre parcours de foi ne nous empêchent pas d'être au cœur du plan de Dieu et même de continuer à être dans sa mission. Des doutes, des fois, ça peut être déstabilisant. Des fois, on peut se dire, mais est-ce que je suis carrément sauvé ? Le doute concernant le salut. Et ça peut durer certains temps. Et il faut lutter, probablement, avec les armes de la foi aussi contre ce doute pour retrouver l'assurance d'être enfant de Dieu. Et c'est une grâce que Dieu nous fait, mais nous avons peut-être aussi ce combat à mener. Lire, comprendre, méditer la parole de Dieu va nous aider aussi à cela. Quelques mots de conclusion. Comment entendre Dieu me parler ? Eh bien, grâce à la lecture de la Bible. Non pas comme par magie, ni en faisant de la Bible un livre de recettes qui fournirait des réponses toutes faites et simplistes. Pour entendre Dieu nous parler, grâce à la Bible, cherchons à acquérir une sagesse biblique et ayons aussi souvent que possible ces fameux moments de connexion avec Dieu au travers de sa parole. Amen. Je vais prier encore avant d'aller plus loin et de vous donner quelques mots d'annonce. Notre Dieu, merci pour cette parole qui jusqu'à aujourd'hui nous est parvenue, que nous pouvons ouvrir si facilement, qu'elle soit sous forme papier, sur notre téléphone. Nous avons tant de facilité et pourtant un petit rien, des fois, nous empêche de nous ouvrir à toi, de nous ouvrir à cette communion avec toi par ta parole. Notre Dieu, nous sommes en chemin et nous te demandons que pour chacune et chacun, quels que soient les combats que nous avons à mener en ce moment, nous puissions trouver dans cette parole les ressources et l'appui nécessaires pour, dans la fidélité, dans la foi, traverser les épreuves, parce que c'est comme cela aussi que tu nous tiens la main et que tu veux nous parler. Que nous puissions être toutes ouïes le dimanche et le lundi et le mardi, etc. Amen.